toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Et oui, nous sommes là à Nice, il fait beau, il fait chaud ce soir sur la promenade des Anglais. Ils sont là avec moi, en ma compagnie, pour évoquer donc cette quatrième étape du Tour de France, remportée par la formation Orica Greenedge. Les Australiens qui frappent fort, ce sont les vedettes depuis le début de ce Tour de France. Bonsoir, monsieur Guimard.
Bonsoir.
On va accueillir également Thierry Bourguignon, qui est avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir Christophe.
Voilà, et Lucho va nous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, il est à la recherche de ses clés de voiture qu'il a perdu. C'est du Lucho dans le texte. Alors, Cyril, on va, avant de tirer les enseignements de ce chrono, peut-être parler de cette équipe Orica Greenedge, véritable équipe surprise, vedette de ce Tour de France. On se souvient évidemment tous de ce bus resté bloqué sur l'arche d'arrivée. C'était lors de la première étape à Bastia. On se souvient également de la victoire de Gerrans hier dans un beau sprint. Et puis aujourd'hui, il récidive, mais avec ses copains, décidément, ils sont en pleine bourre. C'est la loi des séries. Quand ça commence à bien marcher pour une équipe, ça va jusqu'au bout.
Et pourtant, ça avait mal commencé.
Oui.
Avec l'histoire du bus là qui accroche le portique sur la première étape à Bastia. Eh bien non, finalement, ça annonçait beaucoup de ciel bleu pour cette équipe. Beaucoup de ciel bleu. Mais on est peut-être passé à côté lorsqu'on a évoqué les équipes capables de s'imposer. Et lorsque l'on regarde cette équipe Orica Greenedge, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucun leader pour le classement général final du Tour de France, mais il n'y a que des coureurs allant vite au sprint ou des rouleurs de caisse. Et en plus, ce sont des coureurs qui sont techniquement supérieurs à la plupart des coureurs qu'on peut trouver dans d'autres équipes, parce que pratiquement tous, ils sont issus de l'école de la piste. Et l'école de la piste, ça permet sur tous les relais d'être un petit peu plus dans l'abri, un peu plus dans l'aspiration, un peu plus près dans les roues, d'être mieux automatisé grâce à un travail énorme fait dans le cadre des poursuites par équipe.
Alors on va écouter tout de suite le replay de l'étape qu'on a vécu donc ensemble tout à l'heure. C'était aux alentours de 17h et la victoire donc pour la formation Orica Greenedge. Replay.
RMC, le 100e Tour de France.
Chris Froome qui emmène actuellement de très longs relais, il appuie très fort sur les pédales. Chris Froome, impressionnant hein, Cyril, de voir le Britannique, grand favori de ce Tour de France, lorsqu'il prend les relais, ça amuse pas la galerie.
Non, c'est évident, il prend aussi des relais un peu plus longs, ce qui est tout à fait logique, car plus on prend des relais longs et plus on permet à ses équipiers dans l'aspiration eh bien, de récupérer. On a vu tout à l'heure quelques fautes techniques hein, au niveau de cette équipe, sur les passages de rond-point où il y avait des petites cassures, ce qui peut peut-être expliquer qu'ils perdu 5 secondes au premier pointage. Là, sur ce que l'on voit, on a l'impression quand même que l'équipe tourne véritablement bien. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Vous savez qu'on tourne à 57,800 de moyenne pour l'équipe Quick-Step et que le dernier kilomètre que je me suis amusé à chronométrer se fait en une minute, c'est-à-dire à 60 à l'heure.
Lucho, quand on est comme ça dans un exercice de contre-la-montre par équipe et que l'un de ses équipiers envoie très très lourd, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenter de s'accrocher par tous les moyens, se mettre bien à l'abri et tout donner. Mais
à un moment donné, quand on sent qu'on peut plus passer les relais, il vaut mieux essayer de sauter un voire deux relais, de se mettre à l'abri derrière en dernière position et d'attendre de pouvoir récupérer pour pouvoir repasser les relais normalement. Mais c'est vrai que il faudrait éviter pour un des neuf coureurs de se faire lâcher, parce que bon, il y a des délais à respecter après au niveau de l'arrivée. Donc c'est très important d'avoir une équipe très homogène, unifiée pour un contre-la-montre comme celui d'aujourd'hui. Et puis bon, mais si c'est un coureur comme Froome qui régule je dirais le tempo et qui maîtrise l'allure, parce que peut-être que ça ne va pas assez vite pour lui, et bien il en profite pour mettre un petit coup de vis, et ça permet peut-être aussi à ses coéquipiers de pouvoir récupérer derrière et de repasser aussi vite. Et je voulais simplement dire là, pour les 5 secondes de retard de la Sky, ça ne veut pas dire grand chose.
Non,
c'est rien, parce que la deuxième partie est quand même très importante avec un vent peut-être légèrement défavorable. Donc la
ils
Sky,
ont peut-être gardé sur la pédale
moyens,
en plus
voilà,
hein.
La Sky a les moyens de faire une deuxième partie de course très très rapide.
Très bien.
Oui, il faut faire attention quand même, parce que Omega Pharma avait 4 secondes d'avance sur la Garmin, et à l'arrivée ça fait 16 secondes. Dans la deuxième partie,
ils ont encore accéléré.
Quick-Step a repris 12 secondes à Garmin. C'est pas évident que la Sky puisse rouler plus vite que les Quick-Step dans la deuxième partie.
Sky qui vient de perdre à l'approche du dernier kilomètre Geraint Thomas, le gallois handicapé qui a laissé filer ses équipiers. Yann Stannard, le grand britannique, emmène ses sept derniers équipiers au maillot noir et bleu. La machine est groupée, on a su faire preuve de cohésion jusqu'au bout et on va aller échouer pour quelques secondes derrière la formation Omega Pharma. 2 secondes de retard seulement pour Sky sur la ligne d'arrivée, mais Sky est bel et bien battu aujourd'hui sur ce contre-la-montre par équipe par la formation Omega Pharma de Sylvain Chavanel, de Mark Cavendish, mais surtout de Tony Martin, l'ancien champion du monde du contre-la-montre individuel, et de Michal Kwiatkowski, qui est le mieux placé au classement général ce matin. À une seconde du maillot jaune Bakerlandt, tout comme Sylvain Chavanel, mais à l'addition des places, c'est lui qui endosserait ce soir, si d'aventure les classements restaient en l'état, c'est lui qui endosserait le maillot jaune. On n'en est pas là. Kwiatkowski, qui était quatrième au général ce matin, ce serait une drôle de surprise.
Pour information, je vais vous abreuver un petit peu de chiffres. Ils ont tourné en 1-2 sur le dernier kilomètre, les Sky, et ils perdent de 2 secondes. Alors que les Lotos avaient tourné en 1 minute et les Omega Pharma aussi. Donc ils ont perdu dans le dernier kilomètre.
On rappelle 57 km 800 de moyenne pour Omega Pharma, les mêmes eaux évidemment pour Sky. Vous pouvez aisément vous imaginer la vitesse atteinte par une équipe contre la montre sur le bord de mer. Vous prenez un scooter, il va jusqu'à 60, sachant qu'il y a des virages et des demi-tours.
La moyenne record de l'épreuve, c'est un chiffre que me communique à l'instant Gérald Mathieu de RMC Sport, évidemment, de la rédaction de RMC Sport. 57,32 sur 67 km 500, ça avait été établi en 2005 par la Discovery Channel.
Oui, une autre époque.
Mais est-ce qu'on a gardé d'ailleurs
la différence, c'est que c'était un contre-la-montre en ligne et qu'il faudrait savoir quelle était la force du vent.
Et elle était probablement favorable, évidemment. Oui. Ce vent qui compte évidemment beaucoup, mais qui n'est pas très important aujourd'hui. En tout cas, peu de vent sur le bord de mer. Plutôt favorable d'ailleurs, me semble-t-il, Cyril.
De côté.
Il vient de droite.
Devant la ligne d'arrivée.
Hein. Il vient de la mer. Oui. Un vent de mer qui n'amène heureusement pas de nuages aujourd'hui sur la très ensoleillée Bellanis.
On va retrouver Georges Quirino qui se trouve, me semble-t-il, qui attend ou qui est derrière la formation Saxo d'Alberto Contador. Georges.
Exactement, on se trouve derrière la formation bleu et jaune Saxo Bank qui est en train de rentrer vers la plaine du Var désormais. Ils viennent de quitter la promenade des Anglais. Ils sont toujours 9 les coureurs de l'équipe Saxo Bank, emmenés il y a quelques instants par Nicolas Roche. On l'a vu, les dents serrées qui emmènent ses coéquipiers bien en ligne là, alors que l'on arrive devant le palais Nicaïa. Alberto Contador en troisième position dans ce groupe pour l'instant, alors qu'il y a 3 voitures qui suivent cette équipe Saxo Bank, avec notamment Pierre Norris qui est arrivé seulement hier sur les routes du Tour de France. Voilà, on se rapproche des coureurs de la formation de Pierre Norris, où on voit Alberto Contador désormais qui est positionné à la 4e place. Il se remet en danseuse, il parle avec ses coéquipiers, il est à l'avant-avant-dernière position, l'Espagnol qui remonte pour encourager ses collègues, alors qu'un des coureurs est en train de dire qu'il n'en peut plus et qu'il va certainement laisser passer le relais derrière lui. En tous les cas, on semble distinguer que le pistolero est en train d'encourager ses coéquipiers. Là, il est au milieu de ses coéquipiers pour leur demander d'accélérer dans cette portion du parcours.
Cyril, Fred, ça vaut quoi cette équipe Saxo dans l'exercice du contre-la-montre par équipe? C'est quasiment du même niveau que la Sky, avec deux coureurs en moins. Ça serait quoi une bonne performance aujourd'hui de cette équipe Saxo?
C'est de perdre au maximum 15 secondes sur l'équipe Sky, dont on sait qu'elle n'était pas au complet, enfin physiquement au complet. Donc on peut supposer qu'elle perdra au maximum une quinzaine de secondes.
Indication importante, indication chronométrique importante. Fred, on se posait la question de savoir quelle allait être la performance de l'équipe d'Alberto Contador. Et on a la réponse.
Les Saxo-Tinkoff viennent de passer à mi-parcours au point intermédiaire de ce contre-la-montre par équipe qui en compte 25 au kilomètre 13. Les Saxo-Tinkoff concèdent une petite seconde sur Omega Pharma et sont en avance par rapport à des équipes comme Garmin ou Sky. Les Saxo qui comptent 3 secondes d'avance sur Garmin et 4 sur Sky. Ça veut dire qu'Alberto Contador est en train de réaliser une très très belle performance, même si les Saxo viennent de perdre un élément, la personne de Benjamin Noval, le solide rouleur espagnol qui a chuté et qui est ensanglanté, qui a dû laisser filer ses 8 compagnons d'équipe, a confirmé tout de même cette bonne performance sur la deuxième partie du parcours.
Cyril, c'est quand même une très très bonne indication et une très bonne performance de la formation Saxo. Tu nous disais tout à l'heure, s'ils perdent 15 secondes, ce serait pas mal, mais là ils font mieux que pas mal pour l'instant, hein. Mi-parcours, évidemment, il reste encore la moitié de l'épreuve à faire, mais c'est bien en tous les cas.
Oui, non, c'est une très très belle performance. Ils font mieux que de limiter, hein, puisqu'ils sont en avance sur l'équipe Sky, qui est quand même l'équipe de référence pour eux. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont plus que 8 et qu'ils ont perdu Noval là sur chute. C'est dommage, mais à 8, ça, les relais vont revenir peut-être un peu plus souvent et j'ai presque envie de dire ça rééquilibre par rapport à la Sky qui avait deux coureurs un petit peu juste.
300 mètres de la ligne et encore 12 secondes. Autrement, ils seront battus pour la victoire d'étape, Fred.
Avec Alberto Contador qui va mettre un point d'honneur peut-être à passer en tête. Il a l'air un petit peu court quand même, il grimace. Et ils seront battus, les Saxo-Tinkoff, par la formation Omega Pharma. Très belle prestation collective avec des coureurs qui se sont totalement dévoués pour leur leader espagnol. Saxo-Tinkoff qui vient prendre la troisième place de ce contre-la-montre par équipe à 8 secondes de l'équipe Omega Pharma. Saxo-Tinkoff qui vient s'intercaler donc à la troisième place, battu seulement par les Omega et les Sky et Saxo qui ne sont séparés que de 6 secondes. Ouais. Ça veut dire que Christopher Froome a marqué un tout petit d'avance.
Beaucoup moins important que ce qu'on pouvait craindre. Enfin, craindre ou espérer.
Oui, alors je vous confirme, le tour n'est pas gagné ce soir. Hein.
Non, voilà.
Il n'est pas perdu.
Voilà, mais de temps en temps, il est arrivé que le tour soit perdu ou en tous les cas, on ait une nette indication sur le vainqueur du tour au soir du premier chrono. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui.
Oui, mais je pense que tout le monde va être satisfait. 6 secondes pour Froome, bah c'est toujours déjà 6 secondes. Que 6 secondes de perdu pour Contador, c'est aussi une très belle performance. Et il n'y a pas eu d'accident, enfin, tout du moins au niveau des leaders. Donc, statu quo, j'ai envie de dire, sur ces 25 kilomètres, on n'en saura pas plus ce soir.
On saura quand même que la formation Sky, même si elle réalise un temps plus qu'honorable, hein, les deuxièmes pour l'instant à 2 secondes de la formation Omega, que la formation Sky n'est pas si impériale que ça. Bon, on le disait avant ce chrono, Cyril, avec deux coureurs blessés
hein.
c'est évidemment deux coureurs importants en plus. Hein, tu le disais tout à l'heure, Garen Thomas, c'est sans doute le meilleur rouleur de la formation, au même titre que Chris Froome, mais bon, c'est important aussi de remarquer ça et de se dire que les Sky seront peut-être pas non plus intouchables en montagne.
Oui, alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur la deuxième partie, ce sont les Sky qui ont roulé le plus vite, hein, puisqu'ils étaient à 5 secondes au premier pointage, ils viennent finir à 2 secondes de Quickstep. Tous les autres ont perdu du temps sur les Quickstep, hein, et bien sûr sur Sky par voie de conséquence.
Lucho, surpris par la performance des Saxo ou pas la contre-performance, mais la petite performance de la Sky?
Oui, non, je suis pas surpris de la Saxo. Hein. Contador vise le classement général, vise la victoire sur le Tour de France. Donc l'équipe est très bien préparée pour ce genre d'exercice et connaissant le directeur sportif et ceux qui entourent les coureurs, ils ont certainement dû préparer vraiment très très fort ce contre-la-montre par équipe, hein, les relais, et essayer de faire comprendre à certains coureurs que quand ils sont pas bien, il vaut mieux rester en retrait pour mieux reprendre les relais par la suite et ne pas désorganiser l'équipe. Non, c'est une très belle performance de la Saxo, une belle performance aussi de la Sky quand même, malgré tout, parce qu'ils ont quand même deux blessés dans l'équipe, donc c'est quand même, ils sont partis quand même avec un petit handicap au départ de ce contre-la-montre par équipe. Donc je pense que tout le monde s'en sort bien, et comme dit Cyril, hein, le tour n'est pas gagné mais il n'est pas perdu aujourd'hui, donc il va falloir attendre encore dans les prochains jours, voire peut-être le contre-la-montre individuel.
Et un changement de leader à l'instant même, Fred Adam, ce ne sont plus les coureurs précédents qui sont en tête,
ce n'est plus l'équipe Omega Pharma, voilà, de Sylvain Chavanel,
l'équipe vedette depuis le début de ce Tour de France.
Coup de chance pour pas mal des suiveurs du Tour de France. Michał Kwiatkowski, le Polonais, ne sera pas maillot jaune du Tour ce soir, puisque le meilleur temps de ce contre-la-montre par équipe vient de tomber dans l'escarcelle de l'équipe australienne Orica Greenedge, déjà vainqueur de l'étape d'hier à Calvi par l'intermédiaire de Simon Gerrans. L'équipe Orica qui devance sur la ligne d'arrivée ici sur la promenade des Anglais, baignée de soleil, d'une petite seconde l'équipe Omega Pharma. La Sky est à 3 secondes, la Saxo de Contador à 9, la Garmin à 17. Orica Greenedge, invité surprise, même si pour les purs spécialistes on pouvait un peu deviner cette performance, parce que là-dedans il y a des coureurs australiens, et qui dit aujourd'hui coureur australien dit coureur formé sur la piste, avec des facultés à rouler vite, longtemps et dans les roues de ses équipiers, because formation de poursuite par équipe oblige. Ça nous donne des coureurs aptes vraiment à être très performants sur le contre-la-montre par équipe. Il reste une équipe majeure en lice, la Radio Shack de Yann Bakelands.
Et donc la victoire d'étape qui devrait, Cyril, revenir à la formation Orica Greenedge, qui, je le disais tout à l'heure, est la grande vedette de ce début de tour. Grande vedette avec évidemment l'autre jour l'épisode du bus bloqué sur l'arche, puis Simon Gerrans qui remporte son étape, et aujourd'hui Simon Gerrans qui avec son équipe va remporter cette étape et décrocher le maillot jaune. Surprenant quand même, surprenante cette équipe Orica Greenedge.
Surprenant, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il y a dans cette équipe beaucoup de vieux coursiers très expérimentés et surtout formés à la poursuite olympique. Donc ça veut dire que on retombe un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus près dans l'aspiration, et ça répété 30 fois pour chaque coureur, voire même 60 fois sur l'ensemble du parcours, ça fait des millièmes de gagner à chaque fois et dans le final. Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'équipe Sky, qui avait tout à l'heure fait le meilleur temps sur le retour, eh bien a été battue d'une seconde par Greenedge, alors que Greenedge a également terminé en 1-0-2 comme la Sky. Donc vous voyez, les ça se bat à coups de secondes, et c'est ces petits millièmes de secondes qui font que les Australiens sont en tête, et à mon avis vont le rester, puisque je ne vois pas qui pourrait rouler plus vite que les Greenedge dans le final.
Il ne reste plus, Fred, qu'une seule équipe sur la route de Nice, sur le retour de la promenade des Anglais. Cette équipe, c'est la formation Radio Shack, celle du maillot jaune Backlands, qui va probablement perdre son beau maillot d'or.
Yann Backlands, qui tout à l'heure a frôlé la correctionnelle au retour de son équipe sur le bord de mer, là-bas dans la baie des Anges. Yann Backlands qui, dans un virage à gauche, a frôlé le trottoir, lui et sa combinaison jaune, assorti à son casque jaune aujourd'hui. On va terminer presque au complet, on va terminer à 8 au sein de cette équipe Radio Shack. Belle cohésion, belle homogénéité, mais ça a manqué de puissance, de vitesse pure, simplement. À noter la prestation d'Andy Schleck, ouais, dans cette équipe. Andy Schleck qui n'est définitivement pas un spécialiste de l'effort chronométré.
Ouais, Lucho nous faisait remarquer tout à l'heure en antenne, oui, tu n'es vraiment pas impressionné par la position d'Andy Schleck.
Hein. Bah non, le problème c'est qu'il a jamais dû travailler son contre-la-montre, et on va le voir encore dans le contre-la-montre individuel. Il y en a qu'un qu'on voit au-dessus des autres, c'est Andy Schleck. Il a la tête relevée comme s'il avait peur du danger et de regarder bien devant lui, et il passe au-dessus de ses coureurs. Sa tête est carrément, 50 cm plus haute que ses coéquipiers.
Il est plus grand aussi, hein.
Oui, il est plus grand, non, mais bon, il est toujours en train d'être relevé, les bras complètement tendus sur le guidon.
le dernier kilomètre donc pour cette formation Radio Shack, alors que dans le camp Orica Green Edge, on se congratule Fred, car désormais c'est une certitude, Simon Gerrans va tout à l'heure, dans quelques instants maintenant, revêtir le premier maillot jaune de sa carrière, en tous les cas sur les routes du Tour.
Simon Gerrans, local depuis qu'il a quitté l'Italie, lui l'Australien qui avait couru de nombreuses années pour la formation AG2R la mondiale, il s'était installé non loin de la promenade des Anglais, connaissait par cœur le parcours et a remporté à l'instant le contre-la-montre par équipe, puisque les Radio Shack seront bel et bien battus et assez largement par la formation australienne Orica Green Edge, qui compte dans ses rangs, outre Simon Gerrans, le vétéran Stuart O'Grady et d'excellents rouleurs. On a vu Simon Clark échapper hier. La Radio Shack en termine à l'instant avec 29 secondes de retard sur l'équipe Orica Green Edge. L'équipe Orica Green Edge composée de Gerrans l'Australien, du Suisse Albassini, des Australiens Clark, Goss, du Sud-Africain Impey, de Brett Lancaster, de Cameron Meyer, tout ça vient de l'autre bout du monde, de Stuart O'Grady ou du Canadien Zane Tuft. Voilà, il fallait leur rendre hommage à tous, car c'était un chrono par équipe. Victoire d'Orica pour une seconde devant l'équipe Omega Pharma. La Sky est troisième, on le rappelle, à 3 secondes, et la Saxo de Contador à 9 secondes.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.
Petite seconde, même pas une seconde, je crois 75 centièmes de seconde qui fait toute la différence, qui fait tout le bonheur. Ça suffit, hein, en matière de vélo, il suffit d'un millième ou presque, un centième en tous les cas.
Un millième suffit.
Un millième suffit. Lucho, c'est vrai qu'on est content pour cette formation, qu'on connaissait guère finalement avant le départ de ce tour. Certes, ils avaient de bons résultats, mais là, franchement, bingo depuis le début du tour. Hein.
Ah oui, là, je crois qu'on entend parler de l'équipe Orica Green Edge depuis le départ du tour, avec le bus sous le portique, la victoire de Gerrans, le chrono par équipe aujourd'hui, le maillot jaune. Enfin, je crois que là, ils ont vraiment rempli à 100% leur rôle sur ce Tour de France et surtout leurs objectifs. Maintenant, à savoir quand est-ce que Gerrans va perdre son maillot jaune. Il va certainement le perdre dans les Pyrénées, mais ceci dit.
Il peut le garder demain,
ouais. Après-demain, sans problème, voire sur aussi Montpellier. Et Albi, il n'y a aucun souci.
Thierry, on sait que les coureurs cyclistes, les sportifs en général, sont plutôt superstitieux. Là, on a l'impression qu'ils ont la baraka, mis à part peut-être le premier jour, mais ça les a motivés en quelque sorte, cette histoire du bus, et qu'on parle d'eux en négatif quelque part.
Bien sûr, c'était peut-être un signe, le coup du bus. Hein. on s'en est pas perçu, mais signe du destin. Orica a voulu se montrer sur le tour dès le premier jour. Et puis cette victoire, ben ça fait du bien à Orica et ça fait très mal à Omega surtout.
Ah oui.
Puisque même pas pour une seconde, ben ils perdent l'étape et je sais pas s'ils vont s'en remettre.
Oui, une nouvelle fois c'est une déception pour Sylvain Chavanel, qui est ce soir le premier Français au général. Il est cinquième à une petite seconde à peine du maillot jaune de Simon Gerrans. Mais une nouvelle fois, Chavanel, c'est la troisième fois en trois jours qu'il passe à côté d'une victoire d'étape. Aujourd'hui c'était par équipe, mais hier et avant-hier c'était en individuel. Alors on va tirer les enseignements de ce chrono, parce qu'il est intéressant à plus d'un titre. On attendait évidemment peut-être la domination de la formation Sky de Chris Froome. Or, eh bien, ils n'ont pas été si dominateurs que cela, Cyril. Certes, ils sont dans le coup, hein, ils sont à 3 secondes seulement de la formation Orica, mais vu les prestations précédentes dans ce genre d'exercice de la formation Sky, on s'attendait peut-être à ce qu'ils écrasent cette première étape, et qu'ils écrasent peut-être dès aujourd'hui le classement général. Il n'en est rien.
Oui, on pouvait supposer qu'ils allaient faire des écarts. L'importance des écarts, on pouvait la chiffrer à 15 ou 20, 25 secondes, et puis finalement, eh bien, alors c'est vrai, 3 secondes, ça fait 50 mètres, hein, donc sur 25 kilomètres, ça n'est pas énorme pour la victoire par rapport à Orica Green Edge. Mais ce qui est important, c'est que ils ont démontré que leur équipe était peut-être moins puissante que celle de l'an dernier, qu'elle avait un rayonnement beaucoup moins important, et cet écart me paraît quand même significatif par rapport à la puissance de l'équipe Saxo. L'équipe Saxo n'a pas de vrais grands rouleurs dans cette équipe, n'a pas de coureurs avec la réputation de pouvoir emmener un contre-la-montre par équipe. Il n'est fait que de grimpeurs. Eh bien, cette petite équipe de grimpeurs n'a perdu que 6 secondes sur la grosse équipe Sky.
C'est ça l'enseignement principal, Lucho, c'est la résistance, plus que la résistance de cette formation Saxo. C'est ce que tu retiens en premier ce soir.
Oui, bien sûr. On s'attendait à avoir un plus gros écart entre la Saxo et la Sky. Il n'en est rien aujourd'hui. Et je dirais que, à la limite, Contador doit être vraiment très, 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 très fort. Il faudra pas l'oublier dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et à un moment donné, je crois que Froome risque d'être en difficulté par rapport à Contador, parce que le fait de perdre 6 secondes sur l'équipe Sky, c'est vraiment pas énorme. Et attention à la Saxo.
Thierry, ils ont bien préparé leur coup tout de même, les Saxo. Hein. Ils étaient dans l'ombre, cachés, tapis dans l'ombre. On se disait qu'ils allaient prendre une branlée aujourd'hui. Non, ils sont là, bien là. Et finalement, on se dit que Contador et les siens vont être également présents dans la montagne. Et finalement, ce duel annoncé aura bien lieu entre Contador et Froome. On l'espère en tous les cas. Peut-être qu'on on s'enthousiasme un peu trop vite, mais en tous les cas, rien n'est fait ce soir, quoi.
Ce qui concerne les vainqueurs potentiels du Tour de France, puisque il a 6 secondes de retard sur Froome, je pense que sur les étapes à venir dans les Pyrénées et dans les Alpes, on va avoir vraiment un gros mano-mano entre les deux, plus les grimpeurs qui vont être là pour les étapes. Ça va être, je pense, un tour exceptionnel comme on le pensait. Mais on avait peur, bien sûr, de l'équipe Sky qui enfonce le clou aujourd'hui et qui tue même le sport. Mmh. Et le Tour de France ce jour. Mmh. C'est pas le cas.
C'est
tant mieux.
Tant mieux, exactement, tu as raison. Pour le moral en plus, Cyril, c'est bon, c'est pour le moral de Contador de ne pas prendre comme ça une rouste aujourd'hui. Il se dit qu'il est dans le coup, ses coéquipiers sont dans le coup. Ça te donne le moral et on sait qu'un sportif, ça marche aussi à la tête. Hein.
Un sportif, oui, mais tout le monde marche un peu avec la tête, hein, heureusement.
Oui, mais là, on est dans le Tour de France. Donc
c'est vrai qu'il y a le moral en hausse chez la Saxo et je pense le moral en baisse chez la Sky. Moi, c'est ce que je pense qui est en train de se passer. C'est que la Sky pensait avoir peut-être 20 ou 25 ou 30 secondes, c'est-à-dire une petite marge, un petit matelas, suite à ce contre-la-montre par équipe. Ils ne l'ont pas eu. Pour eux, c'est un échec. Il faut le reconnaître comme ça. Alors, maintenant, c'est un échec aussi qu'il faut relativiser dans la mesure où ils avaient deux coureurs blessés. Mm-hmm. Donc, cela peut expliquer le faible écart entre les deux équipes.
Chris Froome, tiens, on va l'écouter tout de suite. Chris Froome, interrogé là aussi à l'arrivée par Georges Quirino. Chris Froome qui, finalement, lui aussi, n'est pas déçu. Hein. Il est devant Contador. Et puis en plus, il ne va pas avoir à supporter la charge du maillot jaune. On sait que c'est difficile pour une équipe. Il est finalement soulagé de ne pas avoir récupéré le maillot jaune, en tous les cas dans son équipe ce soir. Chris Froome.
Si nous avions pris le maillot jaune aujourd'hui, ça aurait été seulement pour quelques secondes. Alors je crois que c'est mieux de ne pas le prendre parce qu'on aurait dû rouler en tête de peloton les prochains jours. Ça aurait pu coûter beaucoup d'énergie pour seulement quelques petites secondes. Donc je pense que c'est mieux de ne pas avoir le maillot jaune.
RMC. Centième Tour de France.
Nous revenons ici donc à Nice au terme de la quatrième étape de ce Tour de France remporté donc tout à l'heure par la formation Rika Greenedge. Le maillot jaune, je vous le rappelle, sur les épaules de Simon Gerrans. Et nous sommes en direct depuis l'hôtel de la formation FDJ avec Pierre-Yves Leroux, notre Tintin reporter, qui est en compagnie de Marc Madiot, que je salue. Salut Marco.
Ça part mal, Christophe. Vous allez tout de suite prendre un revers.
Là, comment ça, qu'est-ce que j'ai dit, Christophe? Ah non, mais parce qu'il faut. Non, mais vous changez de nom tous les ans. Alors, c'est quoi maintenant le nouveau nom?
Absolument pas. FDJ.fr.
D'accord, FDJ.fr. Tu savais, c'est vite,
ouais,
ça.
On est passé à Internet. Hein.
Est-ce que tu tweets, Marc? On va te suivre sur Twitter.
Non.
Ah, tu tweets pas,
non.
Parce que c'est la grande mode des coureurs.
Oui, mais je me méfie des tweets.
Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. De toute façon, le buzz, ça, on sait ce que c'est. Et le buzz, Marc le fait souvent, notamment l'autre jour. Le premier jour, tu nous as poussé un coup de gueule qui nous a bien mis dans le Tour de France. Hein, on s'en souvient. Marc, c'est une façon d'entrer dans le Tour. Mais c'est vrai que tu étais très colère à l'encontre des organisateurs. Est-ce que ta colère est retombé aujourd'hui après ce contre-la-montre par équipe?
Bon, on va oublier, on va passer à autre chose. Hein.
Et Cyril rigole en disant il est toujours en colère. Bon Marc, on va revenir évidemment sur contre la montre par équipe et la très belle prestation de ton équipe hein, qui termine 15e, 42 secondes de retard. Est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne prestation de tes coureurs aujourd'hui?
En place 15e c'est moyen, en temps c'est intéressant dans la mesure où on lâche une quarantaine de secondes voire même moins sur certains des principaux favoris du Tour. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'était de voir la capacité de progression du groupe qui n'est quand même pas un groupe de spécialistes pour le chrono par équipe puisqu'on n'avait pas forcément nos meilleurs rouleurs aujourd'hui au départ de cette épreuve. On a plutôt construit une équipe relativement axée sur la montagne pour le Tour de France de cette année. Donc on n'avait pas des purs rouleurs mais il y avait de la cohésion, il y avait de l'envie, il y avait des garçons qui avaient envie de travailler pour mettre Thibaut Pinot dans de bonnes dispositions avant d'attaquer la montagne dans quelques jours. Donc chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. On a encore des progrès à faire techniquement, mentalement aussi sans doute, dans la logistique aussi, mais on est sur la bonne voie. On a commencé à bien travailler sur le matériel, notamment les vélos, les combinaisons de chrono. On avait des nouvelles combinaisons. On essaie de progresser dans tous les domaines. Il n'y a pas que les Anglo-Saxons qui travaillent dans ce sens. On a lancé une cellule de recherche au sein de l'équipe et on essaie vraiment d'aller chercher les secondes là où on peut les trouver.
Comment tu as trouvé Thibaut Pinot? On sait que le contre-la-montre n'est pas sa spécialité. On sait qu'il a beaucoup de progrès à faire là-dedans pour envisager un jour jouer un rôle très important dans le Tour de France. Est-ce que tu sens qu'il a progressé depuis l'année dernière ou est-ce que entraîné par son équipe aujourd'hui il a limité les dégâts? Est-ce qu'il est en progrès dans cet exercice, Marc?
Bah, il est en progrès déjà parce qu'il a pris une année d'expérience supplémentaire. L'an dernier, il est arrivé sur le Tour pour découvrir ce qu'était le Tour de France. Bon, on connaît le résultat qu'il y a eu derrière. Donc là, il a trouvé, à travers sa prestation de l'an passé, de la confiance, de la sérénité et surtout du soutien auprès de son équipe et de ses coéquipiers. Aujourd'hui, on a essentiellement construit l'équipe autour de lui avec l'ambition d'être performant sur le Tour de France. Jusqu'à l'an passé, on se lançait parfois dans des échappées un peu au long cours en lançant la pièce en l'air, en espérant qu'on retombe sur le bon côté et puis qu'on mette la balle au fond sur des circonstances favorables. Depuis le départ du Tour de cette année, depuis le début de la saison et progressivement depuis la fin de saison dernière, on essaie de construire autre chose, autrement, pour aller jouer dans la cour des grands. Alors on n'est pas dans la cour des grands, on n'est pas encore des grands, mais on essaie de s'inspirer et de se rapprocher de ce qui se fait de mieux dans les grandes structures, dans les grandes équipes. Sur le Tour de Suisse, on a été en certains moments en capacité de prendre la course en main. Sur le Tour de Romandie, on l'a fait également, notamment avec un coureur comme Francis Mouret qui travaillait pour Thibaut Pinot dans une ascension de col. Alors, il y a encore des choses à régler et à améliorer. On l'a fait l'autre jour dans l'étape, la deuxième étape du Tour. Donc, progressivement, on veut être acteur de la course. Alors, on va peut-être pas encore y arriver comme on le voudrait peut-être cette année, mais on prend position, on prend marque, ouais. Et on essaie de s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur.
Cyril, tu as un petit mot à dire à Marc sur changement de stratégie. C'est vrai que l'équipe de Marc était habituée jusque-là à faire des coups sur le Tour avec ses jeunes coureurs, mais là, c'est vrai que cette année, avec un talent tel que Thibaut, on change du tout au tout, ou presque.
Oui, mais c'est tout à fait logique et l'analyse de Marc est parfaitement cohérente. Lorsqu'on n'a pas de coureur capable de venir naturellement dans un top 10 du Tour, à partir de ce moment-là, on va jouer sur d'autres jeux. Donc on va essayer d'aller dans les coups, on va essayer d'aller chercher les classements intermédiaires, on va essayer de se montrer, parce que sur le Tour de France, on est aussi là pour se montrer. Et là, maintenant qu'ils ont un fil conducteur, un fil d'Ariane avec Thibaut Pinot, à partir de ce moment-là, ils changent complètement de stratégie. On ne les a pas vus dans les échappées, alors que par exemple on a vu énormément l'équipe Rockcar, on a vu Sojasson également, mais c'est leur course, la course de la FDJ.fr.
Ouais. Ah ben voilà, tu vas pas te faire taper sur les doigts toi.
Donc la FDJ.fr a fait une course en courant sur les leaders, et on s'aperçoit d'ailleurs ce soir, je pense que Marc l'a dû le faire, eh bien que Pinot n'est qu'à 39 secondes de front, parce que si on fait un premier classement, on a Contador à 6 secondes.
On a Vandenbroek, Ejdal et Dan Martin et Talansky à 14. On a là on a trois costauds, la Quintana, Valverde et Rui Costa à 17, Evans Van Garderen à 23, Andy Schleck à 26, qui est quand même une belle performance par rapport à ce qu'on avait vu avant le tour. Et puis on a Thibaut à 39 secondes, Perrault à 1-1 et Roland déjà à 1 minute 10. Donc on est dans la course des costauds, on est dans la course du classement général, et je trouve tout à fait logique le discours de Marc. Ouais.
Marc, les Pyrénées, c'est pas encore tout de suite, c'est dans 2-3 jours. Qu'est-ce que tu attends de ce premier massif? Il n'y aura que deux étapes. Que va faire Thibaut? Qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Essayer de suivre les meilleurs ou essayer d'attaquer? Quelle va être ta stratégie avec lui? On sait qu'il n'obéit pas toujours. Hein.
Non, mais on a un deuxième palier à franchir, arriver au pied des Pyrénées dans la situation où nous sommes aujourd'hui.
Ouais.
On n'y est pas encore.
Bien sûr.
Donc l'idée, c'est de fonctionner autour de Thibaut et de Nasser aussi également, si l'occasion se présente, pour arriver dans de bonnes dispositions au pied des Pyrénées. Mais l'idée, c'est de rester sur notre fil conducteur, de rester sur ce que l'on s'est fixé comme ligne de conduite jusqu'au pied des Pyrénées. Et à ce moment-là, après la première étape des Pyrénées, on verra à quel niveau ça peut jouer.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Beaucoup de monde pour cet intégral sport spécial Tour de France. Nos deux membres de la Dream Team RMC Sport sont là, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et puis Pierre-Yves Leroux est en direct de l'hôtel de la FDJ.fr avec Franck Pinault, le directeur sportif. Bonsoir à tous les deux.
Salut Virginie.
Salut à tous.
Et donc, la quatrième étape de ce Tour de France était un contre-la-montre par équipe, remporté par la formation Orica. Et la FDJ en est très très bien sortie, hein, Franck Pinault.
Bah, disons que en termes de place, c'est pas super super extra, mais en termes de secondes perdues, effectivement, c'est même très bien débrouillé. Je pense que si on avait su ça avant, on aurait peut-être même signé tout de suite.
Franck, c'est Lucho. Ça va?
Salut Luc.
Salut.
Ça va,
ouais, ça va. Félicitations, parce que c'est vrai que on vous aurait jamais mis à bon cette place. C'est vrai que c'est pas une belle place, mais c'est pas la place qu'il faut voir. C'est plutôt le temps. C'est pas énorme par rapport, je dirais, aux équipes comme la Sky, comme Omega Pharma, Orica. C'est une super performance. Et puis ça peut vous favoriser pour les prochaines étapes. Et puis surtout pour Thibaut Pinot, qui perd pas énormément de temps et qui pourra s'exprimer en montagne, non? Tu crois pas?
Bah, disons que pour Thibaut, ça le rassure. Le chrono par équipe, c'est quand même pas notre tasse de thé, c'est clair. Et en plus, bon, les étapes en Corse, on balisait un petit peu. C'était pas évident pour Thibaut. Et franchement, on sort de la Corse, on a le chrono et on est à 39 secondes de front, mais 33 secondes de Contador. Autant dire que c'est quand même pas mal, quoi.
Tu aurais signé ça avant le départ du Tour, quand même.
Bah, c'est clair. Moi, je disais, si on sort de la course avec moins d'une minute de retard sur les meilleurs, c'était déjà pas mal, parce que je pensais qu'il y aurait plus de grabuge que ça. Et en fait, on s'en sort très bien, quoi. Et aujourd'hui, on est, je te dis, à 39 secondes de Froome et 33 de Contador. Donc, franchement, c'est bien et ça rassure Thibaut surtout.
Et Thibaut, comment il se sent aujourd'hui? Maintenant, les Pyrénées, ils vont bientôt approcher, si tu veux. Donc, il va pouvoir s'exprimer.
Ouais, disons qu'on l'embête pas avec ça. On connaît ses possibilités. Il se découvre à lui-même, en fait, et il grandit gentiment, mais sûrement. Maintenant, dans les briefings, il propose des solutions, et c'est super. L'an dernier, c'était pas du tout ça, et il fallait lui proposer des choses et des situations, alors que là, c'est le contraire. Et nous, bah voilà, c'est top, quoi. On s'adapte un petit peu à ce qu'il veut. On a vraiment une équipe très solide autour de lui, et voilà, on lui fait la bulle pour qu'il soit complètement serein, quoi.
Franck Pinault, il y a un auditeur au 32-16 qui tient à vous féliciter après ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est Guillaume. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir le trio. Félicitations à la Française des Jeux qui a fait la place n'est pas terrible, mais le chrono est très bien. Voilà, je pense que Thibaut a encore ses chances pour faire un top 10. Alors quand j'entends qu'il avait peur de la Corse, il avait peur de quoi en Corse?
Ah, il avait peur de la Corse parce que bon, il y avait des étapes qui étaient très sinueuses et le fait un peloton sur des routes corses qui peut être étalé sur au moins une minute, c'est pas toujours évident. On a peur à la chute et le placement est primordial. Donc c'était pour un leader, c'est jamais simple. Il faut être placé continuellement et voilà, il fallait des leaders, des équipiers pardon à la hauteur des espérances de Thibaut. C'est ce qu'on a fait et ça s'est super bien passé.
Juste une autre dernière question. Moi, je suis un bagarreur. J'aime les attaques. Thibaut, il va faire quoi? Il va attaquer ou il va faire comme Coppel, Perrault, suiveur pour finir 13e du tour et que finalement on s'en aperçoit. On le sait même plus au bout de deux ans, quoi.
Bah écoute, pour répondre à ta question, Thibaut, déjà l'an dernier, tu as pu voir qu'il n'était pas super parce qu'il a déjà gagné pour Antruy de très belle façon en attaquant. Et puis Thibaut, c'est son deuxième Tour de France, faut pas l'oublier. Et je pense bien qu'il va attaquer en montagne. On va pas attendre que les autres nous flinguent, on va les flinguer.
Ouais, puis en plus Thibaut, c'est pas un suiveur, hein. Attention, hein, c'est pas le genre de garçon qui va vouloir faire dans les 10 premiers rien qu'en suivant. L'année dernière, hein, vous l'avez tous vu, il a toujours attaqué. Et tactiquement, oui. il s'est bien débrouillé quand même, hein, Thierry. Et cette année, je le vois bien, il va pas suivre, hein, c'est sûr. Il va vouloir gagner son étape et puis pourquoi pas rentrer dans le top 5 du classement général, on sait jamais.
Merci beaucoup.
Il n'est pas dans
Guillaume,
les mêmes dispositions non plus. Que l'an dernier, puisque là il a un rôle de leader, il veut rentrer dans les 10 premiers, ça c'est affiché de la part de son équipe et de sa part, et je pense que bah, il sera moins fougueux que ce qu'il l'a été par le passé, mais on a vu qu'en début de saison dans toutes les courses où il était là, il était capable de suivre les meilleurs, donc c'est de bon augure pour les Alpes et les Pyrénées, du moins les Pyrénées et les Alpes.
Thierry, Lucho, vous êtes toujours là, hein?
Oui, tu t'inquiètes sûr, pas, je suis pas parti. Hein. Pourtant, j'ai fait un périple tout à l'heure si je te racontais tout ça.
Ah oui, c'est compliqué.
J'avais perdu les clés de la voiture.
Tu les as retrouvées, ces clés?
Attends, j'ai couru dans Nice pendant trois quarts d'heure. J'ai fait tout ce que j'avais fait cet après-midi. Les bars, le café, le machin, le village départ. Et en fin de compte, je les ai retrouvés dans un bar sur la Croisette. J'avais bu un café et le gars m'a dit oui, vos clés sont là. Ah, je l'ai embrassé. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous est-ce que je peux vous embrasser? Parce que là, vous me sauvez la vie, là, quoi. Sinon, plus de voiture.
Ouais, ça n'aurait pas été pratique pour non, finir le tout, Tour de France. Tout. Donc, on te garde bien avec
ben
nous,
ouais, bien sûr.
Lucho. Et on va continuer avec nos auditeurs au 32-16. Jean-Claude nous appelle des Alpes-Maritimes. Peut-être, Jean-Claude, que tu es allé voir, d'ailleurs, la quatrième étape du Tour aujourd'hui.
Non, j'ai pas pu. Bonsoir à tous.
Bonsoir
à nos auditeurs.
Bonsoir Jean-Claude.
J'ai pas pu, j'étais au boulot et donc j'ai regardé ça en filigrane à la télé. Par contre, j'étais pas du tout d'accord avec l'auditeur précédent. Je suis plutôt d'accord apparemment avec vous. Pour moi, Contador a fait une bonne perf aujourd'hui. Je pensais qu'il allait perdre beaucoup plus de temps sur la Sky et sur Froome. Je suis par contre particulièrement étonné de la petite performance de la Sky. Avec l'équipe de rouleurs qu'ils ont sur un chrono aussi plat, je pensais qu'ils allaient exploser tout le monde, mais c'est pas du tout le cas.
Ouais, mais ils avaient deux blessés, attention. Hein.
Pardon ? On pensait la même chose que toi. Et voilà, la surprise, ben c'est la contre-performance de la Sky et surtout la performance de la Saxo qui propulse Contador dans les meilleurs.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.